Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Et pour évoquer donc tout ce qui nous attend à la rentrée, nous accueillons Sylvie Matera. Bonjour Sylvie.
Bonjour.
Vous êtes économiste, senior advisor du cabinet de conseil et d'audit Mazars, mais vous avez une longue carrière en banque centrale et en banque commerciale qui fait que vous allez tout nous dire sur les risques ou pas qui affectent le secteur bancaire et puis sur les politiques monétaires aussi. Alors, s'il y en a un qui connaît les politiques monétaires, c'est bien lui, Christian de Boissieu. Bonjour.
Bonjour.
Professeur à Paris 1, Panthéon Sorbonne, vice-président du cercle des économistes qu'il représente comme tous les jeudis, puisque tous les jeudis un membre du cercle des économistes est présent dans l'émission Les Experts. Je cite votre dernière contribution, Christian, le patriotisme économique a-t-il un sens aujourd'hui ou la mondialisation en question? Excellent livre collectif qui nous interpelle effectivement sur cette notion de patriotisme économique. Et puis Frédéric Farah, économiste, enseignant-chercheur, affilié au laboratoire Phare de l'université Paris-Sorbonne. Phare, c'est P-H-A-R-E. Hein. C'est pas le laboratoire le plus éminent de...
Il l'est,
bien évidemment.
Oui, mais c'est pas... T'as un phare au sens...
Phare, c'est philosophie, histoire et analyse des représentations
économiques.
On démarre avec, quand même, les perspectives économiques pour la fin d'année et pour 2023. Christian de Boissieu, le FMI qui révise à la baisse. La question, finalement, c'est est-ce qu'on va tangenter ou pas la récession, ou est-ce que ça va être plus grave que ça?
Bon, il y a... D'abord, bonjour. Il y a un sens technique à la récession qui est peut-être pas d'ailleurs le plus intéressant, qui consiste à dire deux trimestres consécutifs négatifs. On va avoir tout à l'heure le chiffre américain pour le deuxième trimestre. Le premier trimestre 2022 a été négatif. Si donc le deuxième trimestre est également négatif, on dira les États-Unis sont techniquement...
Mais alors, vous avez vu, il y a un débat passionné aujourd'hui aux États-Unis.
Oui, en disant, il ne faut pas prendre ça comme indicateur.
Voilà, en disant, mais comment on définit une récession?
Non, mais justement, je dis que ce sens technique utilisé par les conjoncturistes n'est peut-être pas le plus intéressant. Et Powell lui-même a signalé hier, quand il a annoncé la hausse du taux directeur de la Réserve fédérale, il a dit, au fond, moi, en tant que président de la Fed... Je regarde ce qui se passe sur le marché du travail. Et effectivement, les États-Unis sont pas très loin du plein emploi. Bon. Deuxième remarque, au-delà du sens technique, et pour revenir aux prévisions du FMI, je dirais, le scénario quand même dans lequel nous sommes, pour des raisons, j'allais dire Covid, guerre en Ukraine, etc., ralentissement chinois, tout ce que vous voulez, c'est... On est dans un scénario de très fort ralentissement. Et moi, je regardais les prévisions pour 2023. J'allais dire qu'à la limite, 2022, c'est en partie joué quand on regarde les chiffres. Mmh. Parce que la conjoncture moyenne d'une année se joue beaucoup sur le premier semestre, pour des raisons sur lesquelles je ne reviens pas. Mais on va faire cette année autour de 2 et quelques en France, dans la zone euro, etc. Mais cette croissance 2022, c'est encore, à mes yeux, une croissance de rattrapage post-Covid ou post-confinement. Le Covid n'est pas fini, mais le confinement, a priori, est terminé. Bon, en tout cas pour nous, en Europe. Donc, je reviens sur 2023. Ce qui me frappe, c'est que les prévisions du FMI pour 2023, elles sont revues à la baisse. Et on est à quoi? On est à 1% pour les États-Unis l'année prochaine, d'après les prévisions. FMI, il peut se tromper, le FMI. C'est pas parce qu'il y a 2000 économistes à Washington qui se trompent pas. 1% pour la France, etc. C'est-à-dire que, voilà, on revient, une fois l'effet rattrapage post-confinement dissipé, on revient à ce qu'on appelle la croissance potentielle, qui n'est pas terrible en France et en Europe, etc. La croissance potentielle de la France, elle est autour de 1, maximum 1,5%. Donc, quand la mer se retire, quand la mère se retire, je dirais, on voit qui est à poil et qui n'est pas à poil. Bon, voilà, au-delà du... Je termine en disant, au-delà de cette question technique, récession ou pas récession, ouais. d'autres trimestres continuent, moi, ce qui me préoccupe, c'est la tendance à ce très fort ralentissement qui va avoir des conséquences pour l'emploi. Je termine en disant, hier, on affichait les chiffres pour la France au deuxième trimestre 2022. Bon, pour l'emploi et le chômage. Et interrogé là-dessus, moi j'ai dit, cette dynamique de l'emploi, très bien, profitons-en, on est sûr d'être lancé. Mais si vous regardez ce qui est prévu, ce qu'il y a dans le tuyau au point de vue de croissance ou de ralentissement plutôt, pour la fin 2022 et pour 2023, je pense qu'on ne peut pas extrapoler que la baisse du chômage. Le chômage va forcément remonter en France, à mon avis, fin 2022-2023. Voilà, je m'arrête.
Sylvie Matera, qu'est-ce qui vous inquiète aujourd'hui, vous, dans l'économie mondiale ?
Bon, moi, je ne suis pas une fétichiste des termes. D'abord, récession, ce n'est pas forcément un drame. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un ralentissement. Mais il y a un ralentissement qui va être aussi un peu provoqué par les réactions des banques centrales qui sont en train de remonter à toute vitesse les taux après avoir attendu qu'ils baissent tout seuls. Donc, ça va être... Alors, l'idée, c'est un petit peu aussi... Je pense que l'idée, c'est de dire que l'inflation à laquelle on fait face aujourd'hui est liée à des phénomènes conjoncturelle, c'est-à-dire la hausse des prix du pétrole, le rattrapage Covid. Et donc, on espère que finalement, tout ça, ça va se tasser un jour. Et que si on appuie, et ce qu'il faut absolument éviter, c'est que cette inflation, les causes de cette inflation viennent au niveau structurel, c'est-à-dire qu'il y ait une indexation, que les salaires soient augmentés, et qu'après, ça soit très difficile de revenir sur cette évolution des prix. Donc, si on augmente très rapidement les taux, et qu'on a un impact dépressif sur la demande et donc la croissance, dont on voit qu'elle baisse un peu partout, bah peut-être qu'on peut éviter cette indexation générale et, disons, éviter la surchauffe et repartir sur des croissances certes moins élevées, mais peut-être plus tenables à long terme.
Ouais, donc une fois de plus, Frédéric Farah, on a l'impression que un accident pourrait venir, je dis une fois de plus parce que c'est souvent le cas, des réactions excessives des banques centrales ou dans le mauvais timing des banques centrales.
Mais moi, je n'ai pas voulu dire que c'était un accident. Je pense qu'ils le font exprès. Je pense que la Fed augmente très rapidement et qu'elle a très... Enfin, que la récession, ce n'est pas forcément une mauvaise chose hein, dans l'immédiat.
On va y revenir. Je termine sur le tour de table conjoncture. Frédéric, est-ce qu'il y a des choses, vous, qui vous inquiètent, des équilibres, des pays qui vous inquiètent plus que d'autres ?
Il y a plusieurs choses. Je retrouve sur ce que disait Christian tout à l'heure. C'est vrai que la tendance au ralentissement derrière cette croissance pourrait nous faire renouer avec un vieux débat, une fois qu'effectivement la mer se retire, la question d'un débat qu'on a un peu évacué, qui était la question du problème de la stagnation séculaire. Qui est, à mon avis, un débat assez ancien, c'est-à-dire, est-ce que...
Alors, réexpliquer les termes du débat.
En fait, la stagnation séculaire, c'est un terme qui ne date pas des années 90-2000. La première fois, il était apparu aux États-Unis dans les années 30 avec Alvin Hansen. Mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, en fait, du fait de ce qu'on appelle des vents contraires, c'est ce qu'appelle Gordon des vents contraires, on serait dans une situation où la croissance, du fait que des ralentissements de la productivité, des questions démographiques ou autres, on serait dans une situation où la croissance va rester plus ou moins stagnante et on retrouvera pas des croissances très dynamiques. À ça, il y a eu le débat aux États-Unis. Stiglitz avait répondu, entre autres, que le problème était moins une question de stagnation séculaire que de politiques économiques et d'ajustement des politiques économiques. Donc alors, est-ce qu'on est, on va retrouver une croissance qui est plutôt pas terrible une fois qu'on aura fini le rattrapage? Bon, ça, c'est une première question. Deuxièmement, moi, ce qui me préoccupe, c'est la zone euro elle-même, parce que même derrière l'apport des banques centrales ces dernières années, les déséquilibres de la zone euro demeurent. C'est-à-dire, effectivement, certains pays connaissent une désindustrialisation préoccupante. Il y a des déséquilibres des balances commerciales aussi dans la zone euro, même si la zone euro, si on la prend comme grand pays, elle apparaît excédentaire. Mais si on regarde à l'intérieur, on voit bien qu'il y a des déséquilibres existants. Et moi, ce qui me fait un peu peur dans la situation de l'économie mondiale, c'est un peu la fragilité de la zone euro. C'est-à-dire que les banques centrales ont acheté du temps ces 10 dernières années, effectivement, en injectant les liquidités nécessaires. Mais des problème de divergence profonde de performance économique à l'intérieur de la zone euro persiste et que les banques centrales avaient réussi à cacher en faisant qu'en quelque sorte on pouvait s'endetter pour pas grand chose, mais derrière ça la machine à diverger qui est dans la zone euro en termes de productivité, de recherche et de développement, d'emploi, taux d'activité demeure et qui fait que ça reste une zone effectivement très fragile par-delà même les interventions des banques centrales.
Ouais, est-ce que alors, attendez, à tous les deux, aux banquiers en fait, je m'adresse. Gérer cette hétérogénéité croissante de la zone euro, ça s'est fait dans le passé quand on était en période de baisse de taux. Et là, on se dit, c'est vrai que c'est plus confortable de gérer ces hétérogénéités quand on est en période de baisse de taux que, comme maintenant, quand on va arriver en période de hausse des taux d'intérêt.
Ouais, moi, je suis assez d'accord sur ce diagnostic un peu pessimiste de la zone euro. Et pour reprendre votre première question, ce qui m'inquiète plus, c'est vraiment la situation de la zone euro, mais de l'Europe aussi en général. Parce que c'est vrai que d'un point de vue économique, il y a cette situation d'hétérogénéité qui place d'ailleurs la BCE dans une position beaucoup plus inconfortable que la Fed. Il faut que je fasse quoi ?
Il faut juste qu'on entende moins vos magnifiques bracelets qui teintent. Bon, donc vous tenez vos mains tranquilles.
Je ne bouge plus. Donc je pense qu'effectivement la BCE est dans une situation plus inconfortable que la Fed à cause de ces différences entre les différents pays de la zone euro. Mais même d'un point de vue géopolitique, on voit aujourd'hui une reconfiguration de blocs au niveau mondial et on ne voit pas l'Europe dans cette reconfiguration. Donc, s'il y a quelque chose qui est un petit peu inquiétant, c'est effectivement le positionnement de l'Europe et de la zone euro au niveau mondial. Et ça, je pense que c'est une difficulté supplémentaire pour nos pays, tout à fait.
Alors, Christian ?
Oui. Moi, ce qui m'inquiète en Europe, c'est pas tellement les divergences qui m'inquiètent, c'est que on est tous pas très bons du point de vue de la croissance potentielle. Oh, c'est ça qui m'inquiète.
Oui. La révision de la croissance potentielle française, là, c'est 1%.
Hein. Oui, non, je disais entre 1 et 1,5. Ouais, alors les économistes, les modèles sont pas d'accord, mais enfin, parce que c'est assez compliqué de mesurer tout ça. Mais c'est ça qui m'inquiète, parce que l'Allemagne n'est pas meilleure que nous. Hein. On est tous autour de 1% pour des raisons différentes d'un pays à l'autre. Et donc, ça rejoint le débat sur les réformes structurelles. Qu'est-ce qu'il faut faire, j'allais dire, une fois qu'on sera un peu sorti du quoi qu'il en coûte, parce que nous sommes encore là-dedans. Qu'est-ce qu'il faut faire du point de vue des politiques et des réformes structurelles pour relever la croissance potentielle ? On le sait à peu près. C'est le débat sur la réforme des retraites, c'est le débat sur la réforme du marché du travail. Par rapport au... Je ne veux pas faire un débat d'histoire de la pensée, mais moi, ma réponse aux partisans de la stagnation séculaire, effectivement, qui remonte au début des années 30, à la fin des années 30, et qu'on retrouve maintenant, pour moi, la réponse, c'est l'innovation. Hein. C'est le progrès technique, je veux dire, tous ces gens-là qui nous disent l'investissement va ralentir, les occasions d'investissement, comme disait Alvin Hansen, vont disparaître, etc.
Non, mais là, pour le coup, on n'en a jamais eu autant.
Non, c'est ce que je dis, mais je pense que le moteur du capitalisme, ça reste l'innovation au sens le plus large du terme, c'est-à-dire technologie, produits et organisation et réforme de l'organisation. Je reviens une minute sur les divergences à l'intérieur de la zone euro. Comme vous l'avez dit, Emmanuel, c'est vrai que c'était plus facile à régler quand les taux d'intérêt étaient bas. 2010, encore bas, et même qu'ils pouvaient encore baisser 2010-2013, que là, il faut gérer l'hétérogénéité dans un contexte où les taux remontent. On va voir ce qui se passe du côté italien. Alors, l'Italie rajoute une dimension incertitude politique non négligeable. Ils vont avoir leurs élections en septembre, etc. Mais c'est vrai que l'Italie, c'est un peu le test. Alors, la BCE a annoncé l'autre jour qu'elle allait mettre en place un instrument de protection de la transmission, comme ils disent. Je n'aime pas beaucoup le vocabulaire, mais enfin, on comprend à peu près ce que ça veut dire. Faire en sorte que la même décision prise à Francfort par la Banque Centrale Européenne puisse avoir un impact sur tous les pays, j'allais dire au même moment, à peu près, au-delà des différences de structure d'un pays à l'autre. Ça veut dire quoi, d'ailleurs ? Ça veut dire que si les taux italiens se tendent trop par rapport au taux allemand, puisque c'est ce qui compte, c'est comme ça qu'on mesure les écarts, le spread. Bon, la BCE achètera des titres italiens. Je sais pas si elle vendra. Je sais pas si elle vendra des titres allemands, mais ça serait un peu paradoxal.
Mais attendez, c'est ma question, Frédéric Farah. Est-ce que l'Allemagne va rester encore longtemps la référence absolue de la zone euro. Enfin, je veux dire, quand on voit la multiplication des prévisions alarmistes, quand on voit l'impasse du modèle énergétique allemand, je suis sévère si je dis l'impasse du modèle industriel allemand, mais enfin c'est quand même la spécialisation sur des vieux secteurs. On se dit et là on voit des tas de gens, enfin des états d'experts qui nous disent mais attendez, avec ce qui va se passer sur la pénurie de gaz cette année, vous allez avoir des grandes entreprises, vous allez avoir les chimistes qui vont licencier des dizaines de milliers de personnes. Enfin bref, est-ce que l'Allemagne reste la référence incontournable, et est-ce que on parlait de l'Italie, l'homme malade de l'Europe, mais est-ce que c'est pas l'Allemagne, l'homme malade de l'Europe aujourd'hui?
En fait, aujourd'hui, on peut dire qu'avec ce qui se passe avec l'Ukraine ou la question du gaz ou autre et des choix, quand Mme Merkel est partie, tout le monde l'a célébré. On a dit, oh là là, les années Merkel étaient extraordinaires. Alors maintenant, là, on revoit un peu à la baisse...
Le bilan,
parce qu'on se dit finalement, on l'a peut-être célébré un peu trop vite.
On a abandonné le nucléaire, elle n'a fait aucun investissement dans les infrastructures.
Voilà, et donc, et en fait, derrière ces excédents budgétaires, il y avait effectivement un problème d'investissement public très préoccupant en Allemagne. Et aujourd'hui, se pose effectivement la question, et en plus se pose la question surtout que l'Allemagne... Maintenant, c'est la question de la solidarité, parce que l'Allemagne a expliqué qu'il fallait à ses voisins qu'ils fassent leur devoir à la maison, qu'ils soient à la hauteur, qu'ils fassent les réformes nécessaires. Alors aujourd'hui, l'Allemagne est bien embarrassée. Donc effectivement, sa position donnait des leçons. Surtout qu'en plus, je rappelle que l'Italie, qu'on regarde avec beaucoup d'inquiétude, depuis des années, elle est en excédent primaire. Hein.
Absolument.
Et ça, il faut pas l'oublier.
Hors charge de la dette.
Hors charge de la dette, elle est en excédent
les comptes
primaire.
Comptes publics. Alors juste une question là, répondez-moi, parce que comment se fait-il qu'en accumulant les excédents primaires au fil des années, ça n'ait quasiment aucun impact sur le ratio dette publique sur PIB?
Parce que les marchés ne s'intéressent pas à l'excédent primaire. Ils s'intéressent à l'excédent...
Oui, mais normalement, à force d'accumuler les excédents brut, primaires...
Les économistes s'intéressent au solde primaire hors charge d'intérêt. Les marchés, ils raisonnent sur le solde...
Oui, mais Christian, ce que je veux dire, c'est que si année après année, le solde primaire est positif, il y a bien un moment où la dette, elle doit diminuer.
D'accord,
quand même.
Mais y a pas, d'abord, les marchés ne regardent pas que ça. Samuelson disait, si j'ai deux yeux, c'est pour regarder au moins deux indicateurs. Donc les marchés regardent plusieurs indicateurs et ils pondèrent, c'est tout.
Oui. C'est vrai que la situation allemande... on a plutôt considéré jusqu'à présent l'équilibre des comptes publics. Donc, de ce point de vue-là, l'Allemagne se portait bien. Mais aujourd'hui, on voit bien que, face à la problématique notamment énergétique, l'Allemagne est un petit peu dans une situation complètement délicate. Et de ce point de vue-là, la France est plutôt favorable, si ce n'est qu'il faut que toutes les centrales nucléaires sont plus ou moins en réparation pour l'instant. Mais bon, cela étant, il faut quand même pas... Alors, c'est vrai que moi, je trouve que l'Europe est dans une position un peu délicate aujourd'hui, mais on est face aussi à des potentiels qu'il ne faut pas du tout négliger. C'est-à-dire, toute la transition énergétique, ça doit être pris comme une opportunité. Il faut développer ces nouvelles énergies pareil pour la transition numérique. Donc, on n'est peut-être pas condamné à avoir une croissance complètement atone jusqu'à la fin des jours. Il faut quand même essayer d'investir sur des secteurs porteurs d'avenir. Et aujourd'hui, on a quand même pas mal de choix en la matière.
Par rapport à ce que dit Sylvie, c'est ce que je voulais dire quand je parlais d'innovation, parce que justement la transition énergétique, ça passe par des innovations, par nouvelles technologies, par des nouveaux produits, etc. Donc quand je dis la croissance potentielle est trop bas, c'est pas du tout passéiste ou pessimiste, c'est-à-dire c'est maintenant qu'il faut prendre des mesures pour relever la croissance potentielle, parce qu'un pays qui a une croissance potentielle, je termine, qui a une croissance potentielle à 1%, il ne peut pas espérer être à 3% durablement. La croissance potentielle, c'est la force de rappel de la croissance effective. Si on veut continuer à baisser le chômage, si on veut atteindre l'objectif d'Emmanuel Macron de plein emploi à la fin de ce quinquennat, c'est-à-dire, il faut plus de croissance, et à mon avis, plus de croissance, c'est tout à fait compatible avec moins de CO2, et là, je suis contre les thèses de la décroissance, vous l'avez compris, plus de croissance et moins de CO2, c'est possible grâce aux nouvelles technologies, grâce aux innovations.
Frédéric Farah.
En fait, dans cette affaire, l'Europe patine depuis longtemps. Alors, je prendrai deux exemples. Donc, à aucun moment de son histoire, depuis 1999, la zone euro a été leader en matière de croissance dans le monde. À aucun moment. Je veux dire, ça n'a jamais été la zone la plus dynamique du monde. Et deuxièmement, je me rappelle que, si ma mémoire ne fait pas défaut, le 23 mars 2000, à Lisbonne, il y a eu un processus qui s'appelait le fameux processus de Lisbonne. On avait dit qu'en 2010, on devait devenir l'économie la plus compétitive, de plein emploi, et on avait fait toute une série de critères.
La plus technologique.
Voilà, et on avait dit, il va falloir, je me souviens, on avait établi toute une série de critères à Lisbonne, on avait dit, pour que ça converge. Alors, les critères, c'était, on va devoir converger au niveau de recherche et développement, productivité, taux d'activité, taux d'emploi, etc. Bon, finalement, ce processus est devenu la stratégie de l'Europe croissance 2020. Donc, et là, on attend toujours ce machin. Donc, je rappelle aussi, par rapport à la géopolitique, en 2004, sommet de Laeken, où on nous explique qu'il faut être au centre, une puissance stratégique, avec effectivement que les citoyens s'identifient davantage dans les institutions. Qu'est-ce qui est devenu tout ça? Je ne sais pas. Le temps passe. Si vous voulez, c'est ça aussi qui me préoccupe. C'est-à-dire, les réformes structurelles. Regardez l'Italie. Mario Draghi était là. On a vu qu'il y a eu une petite tension sous les spreads récemment. Mario Draghi est arrivé avec une mission claire qui était de mettre en œuvre les réformes structurelles exigées par le PNRR, c'est-à-dire par le plan de Next Generation EU européen. Donc, il a mis ça vraiment en charge. J'ai suivi ça de près. Et bon, n'empêche, il part, d'accord, dans les circonstances que l'on sait. Mais on a vu une tension. Alors que, en 2011, quand Berlusconi était là, Jean-Claude Trichet avait envoyé une lettre en disant il faut faire des réformes, il l'a pas faite en novembre, mon ami Mario Monti. Là, il les a faites, et on voit bien que ça change pas toujours la donne. Donc c'est un peu problématique, hein, si vous voulez.
Parce qu'il y a la politique.
On poursuit notre conversation après la petite pause. On retrouvera Sylvie Matera, Christian de Boissieu, Frédéric Farah. On continuera à évoquer les risques conjoncturels pour la deuxième partie, enfin la dernière partie de l'année, plus 2023. Et puis on reviendra plus en détail sur les politiques monétaires et les banques centrales.